devient zéro. Dans sa longue histoire belliqueuse, la France a fait la guerre à presque tous les peuples de la planète, directement ou quand ces derniers étaient des possessions coloniales de puissances européennes. Bien des Français pensent cependant que seuls les États-Unis d'Amérique ont échappé à cet esprit guerrier. Le livre d'Eric Schnakenbourg, professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes, rétablit une vérité oubliée. On ignore en effet qu'à la fin du XVIIIe siècle, les marines états-uniennes et françaises s'affrontent en Atlantique Nord, en mer des Caraïbes et aux Antilles. L'auteur rappelle que, construit en 1954, le mémorial du corps des Marines des États-Unis est dédié à tous les Marines qui sont morts au service de leur pays depuis 1775. Le piédestal porte l'inscription des différentes guerres auxquelles ils ont participé. Il y a d'abord la guerre d'indépendance 1775-1783, puis la French Naval War 1798-1801. La première guerre dans laquelle les États-Unis, comme nation indépendante, furent engagés, les opposa à la France. À la guerre navale française, les historiens préfèrent parler de quasi-guerre, d'où le titre de son ouvrage, La quasi-guerre, le conflit entre la France et les États-Unis, 1796-1800, Talleyrand-Dyer, 2024, 320 pages, 22,50 €. Pourquoi cette expression? Parce que d'une part, il n'y eut jamais de déclaration officielle de guerre, soit par la France, soit par les États-Unis, et d'autre part, les combats uniquement en haute mer causèrent une centaine de morts. L'université hexagonale traite peu ce sujet. En revanche, l'historiographie anglo-saxonne déborde. Cette étude passionnante plonge le lecteur dans les méandres complexes d'un proto-conflit au retentissement politique, militaire, économique, diplomatique et financier considérable. La quasi-guerre s'apparente à une guerre de course classique. On y trouve des corsaires qui cherchent en priorité à interrompre les échanges commerciaux entre l'Angleterre et ses terres antillaises. Dans le contexte de la Révolution française, les marins français veulent aussi protéger leurs riches îles sucrières. Or, le 19 novembre 1794, les États-Unis signent avec l'Angleterre le traité de Jay, dont les articles prévus contredisent, selon Paris, le traité commercial franco-américain de 1778. Jay n'empêche pas la Royal Navy d'enrôler de force sur ses bâtiments des citoyens américains perçus comme des sujets rétifs de sa gracieuse majesté. Par ailleurs, les tensions révolutionnaires en Europe ont de vives répercussions dans la vie politique de la jeune République américaine. Les républicains, à ne pas confondre avec l'actuel parti républicain, suivent Thomas Jefferson et s'inspirent de l'exemple français, y compris des sans-culottes jacobins. Ils se mobilisent contre les fédéralistes de John Adams, qui développent une interprétation aristocratique de la Constitution de 1787. Leurs détracteurs les qualifient d'anglo-fédéralistes. La lourde dette financière des États-Unis envers la France, la lenteur des communications, les maladresses des représentants français, la complexe affaire XYZ et le souci des États-Unis de conserver leur neutralité active et lucrative favorable aux flux commerciaux transatlantiques attisent les tensions franco-américaines. L'ouvrage ne verse pas dans l'histoire bataille. Grâce à la consultation d'archives inédites, l'auteur s'intéresse au sort des Français présents aux États-Unis et des États-Uniens installés en France. Plusieurs États fédérés se rallient à une francophobie exacerbée. Celle-ci est pourtant ancienne et fréquente. On peut sur ce point reprocher à l'auteur d'évacuer le féroce sentiment anti-français qui animait George Washington. Avant d'être le chef indépendantiste, il s'est formé à l'art de la guerre sous l'uniforme anglais avant même le début de la guerre de 7 ans, 1756-1763, cette première guerre mondiale. Mis sous pression, le gouvernement fédéral révoque ainsi l'autorisation accordée aux consuls d'exercer leurs fonctions. Les fédéralistes au pouvoir adoptent en outre des lois d'exception, exclusion de tout étranger dangereux pour la sécurité nationale et la paix, Arrestation, expulsion de tout étranger de plus de 14 ans dont le pays serait en guerre contre les États-Unis. Définition de la sédition perçue comme une trahison au service de la France. Aujourd'hui perdurent toujours ces mesures légales déjà appliquées dans l'histoire. Internement de 120 000 Américains d'origine japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, au nom des lois sur les étrangers de 1798, ou encore des poursuites qu'aurait encouru Elon Musk en vertu du Logan Act de 1798, s'il avait été confirmé qu'il avait appelé Vladimir Poutine pour parler de paix dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine à l'automne 2022. Cependant, les relations ne sont pas totalement rompues. Ministre des Relations extérieures de la République française, Talleyrand, négocie avec difficulté avec trois émissaires états-uniens. Il revient finalement au premier consul, Napoléon Bonaparte, de régler ce conflit. Le retour de la paix en mer impliquera en 1804 la vente du très vaste territoire de Louisiane. La quasi-guerre contraint enfin le gouvernement fédéral à lancer l'US Navy. Les États-Unis remportent donc la quasi-guerre. Malgré leurs intentions isolationnistes, ils acquièrent un statut de puissance à la fois terrestre et océanique. Il est néanmoins dommage qu'Eric Schnakenbourg n'explique pas qu'un troisième conflit, la Seconde Guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, 1812-1815, fort bien étudiée par Sylvain Roussillon en 2012, va accélérer les ambitions géopolitiques des États-Unis. Ils s'intéresseront bientôt à tout l'hémisphère occidental. Il en découlera, au-delà d'une fermeture formelle et partielle, les intérêts économiques priment sur les intérêts étatiques. La doctrine Monroe en 1823, puis la destinée manifeste vers 1845. La quasi-guerre confirme surtout que la plus grave erreur de Louis XVI fut d'intervenir aux côtés des insurgents américains. Salutations flibustières.